Bonjour, nous sommes le mardi 19 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Les propriétaires de panneaux photovoltaïques wallons en sont pour leurs frais. Ils ne seront pas dédommagés pour la réduction de la période d'octroi des certificats verts. L'aéroport de Bruxelles pèse près de 2% du PIB et génère plus de 60 000 emplois, un pôle économique à lui seul qui rayonne très loin des pistes. La Banque du Japon relève ses taux directeurs. Il repasse en positif pour la première fois depuis 17 ans. Je suis Laurent Fabry, bienvenue dans le brief.
Le brief, cette info, dès 7h.
Ça sent un peu la fin des haricots pour près de 20 000 propriétaires de panneaux photovoltaïques. Ils contestaient devant la justice la révision d'un système de soutien de la région wallonne et ont perdu en appel. L'arrêt date du 12 mars dernier. Ces prosumeurs, c'est comme ça qu'on les appelle, réclamaient des dédommagements pour la réduction de la période d'octroi des certificats verts. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour Christine Scharf.
Bonjour Laurent.
Et expliquez-nous un peu cette affaire.
Il s'agit en fait de propriétaires de petites installations photovoltaïques qui avaient été installées entre 2008 et 2011. À l'époque, on leur avait promis 15 ans de certificats verts, donc de subventions pour l'électricité verte produite par leurs panneaux. Et puis le système a eu tellement de succès, il a pesé très lourd sur la facture de l'entièreté des consommateurs et donc le gouvernement a décidé de revoir le système à la baisse et de ne plus leur offrir des certificats verts que pour 10 ans. Donc les prosumeurs, enfin une bonne partie d'entre eux, sont allés en justice. Ils ont d'abord essayé devant le Conseil d'État, puis devant le tribunal de première instance qui leur a donné tort. Là, ils étaient en appel et à nouveau, ils viennent d'être déboutés.
Mais ces propriétaires pouvaient-ils vraiment se retrouver perdants en installant des panneaux photovoltaïques?
Ben normalement, non. Ils ont bien entendu reçu moins que ce qu'ils avaient espéré au départ lors de l'investissement. Mais il y a finalement un mécanisme qui a été mis en place pour garantir à tout le monde quand même 7% de rentabilité sur leur investissement. Ceux qui n'avaient pas cette rentabilité pouvaient demander une compensation.
Ces prosumeurs ont-ils encore des moyens de recours aujourd'hui devant la justice?
Oui, ils peuvent toujours aller en cassation. Leur avocate dit d'ailleurs que c'est ce qu'elle va leur conseiller de faire parce qu'elle estime qu'il y a des questions juridiques auxquelles les réponses qui ont été apportées n'étaient pas satisfaisantes.
Dans la dernière ligne droite pour l'obtention du renouvellement de son permis d'environnement, l'aéroport de Bruxelles bénéficie aujourd'hui d'une étude qui démontre l'importance de son poids économique et il n'est pas mince. Plus de 60 000 emplois directs et indirects sont générés par l'activité de la plateforme et l'impact sur le PIB belge est considérable, près de 2%. Écoutez Bart Jourquin, il est prof à l'UC Louvain et l'un des auteurs de l'étude menée en collaboration avec l'Université d'Anvers.
Aujourd'hui, on peut considérer que l'aéroport génère pour une valeur ajoutée de un peu moins de 5,5 milliards d'euros. Et donc effectivement, on se rend compte que c'est quand même un acteur majeur. Et maintenant, l'ensemble des dossiers sur la table, je pense que nos hommes et femmes politiques vont devoir trouver finalement le point commun, l'équilibre entre la force économique de l'aéroport. On peut ou pas aimer, mais il y a effectivement une véritable valeur ajoutée en termes d'emploi, en termes de création économique. Et on sait aussi que, d'un point de vue environnemental, cela pose un certain nombre de problèmes. Et maintenant, il faut, avec ces chiffres-là, prendre des décisions sur le long terme.
Alors, cette étude ne tient en effet pas compte des conséquences environnementales de l'aéroport. Le médiateur fédéral le regrette. Philippe Touède se pose en défenseur des personnes survolées. Il estime que le sommeil de plus de 100 000 riverains est sérieusement perturbé par le bruit des avions, ce qui peut entraîner des problèmes de santé. Le gouvernement flamand doit prendre une décision quant au renouvellement du permis de l'aéroport d'ici à la fin du mois. C'est un petit tremblement de terre dans le paysage scientifique wallon. 5 centres de recherche vont se rapprocher pour créer un seul organisme, son nom SISMIC. L'acronyme signifie Centre d'innovation stratégique pour les matériaux innovants et circulaires. C'est suite à un appel lancé par le ministre de l'économie que ces 5 laboratoires ont élaboré ce projet de fusion. C'est une première étape dans une démarche de rationalisation de la recherche à l'échelle wallonne. François-Xavier Lefebvre, bonjour. Il faut dire que le paysage de la recherche wallon est un petit peu spécial tout de même.
Oui, bonjour Laurent. Effectivement, spécial dans le sens où, en fait, il y a beaucoup de centres. On compte 19 centres de recherche en Wallonie. Il y a des centres qui ont la casquette fédérale parce qu'il y a des centres interfédéraux. Il y a des centres régionaux. Et ça fait un peu trop, en fait, quand on compare à la superficie de la Wallonie ou même par rapport à la Flandre qui a déjà réussi cette étape de rationalisation de son paysage. Et donc, c'est un vieux projet qui était dans les cartons depuis belle lurette et même dans la déclaration de politique régionale. Et on voit qu'aujourd'hui, il arrive doucement. Enfin, une première étape va être enfin franchie, ce qui permet forcément, mais ça peut-être qu'on en parlera plus loin, de changer d'envergure certains centres.
Concrètement, qu'est-ce que les centres de recherche ont à gagner dans ces rapprochements ?
Mais au niveau politique, et même dans les centres qui vont bénéficier de ce rapprochement, on parle de massification. C'est en fait un phénomène d'échelle en Europe, en fait, pour accéder à des projets de recherche, des projets scientifiques. En rapprochant 5 centres aujourd'hui, ces centres vont pouvoir s'associer déjà pour partager les équipements, partager les investissements qui sont assez coûteux, mais également pour attaquer les projets de recherche au niveau européen, parce qu'un petit centre n'a pas l'occasion d'être présent à chaque manifestation où il y a des associations de fêtes autour de projets. Et donc ici, l'union fait la force.
Merci François-Xavier. Une nouvelle activité, plutôt inattendue, pour Telenet, l'opérateur télécom se lance dans l'installation de bornes de recharge pour des véhicules électriques. Une diversification qui sera déployée sous la marque Blossom. L'entité s'attaquera d'abord au marché des entreprises. Un premier contrat a d'ailleurs été signé avec BNP Paribas Fortis. En plus de l'installation des bornes, Blossom propose une application qui permet de suivre sa consommation d'énergie et transmettre des informations utiles aux entreprises. Pour le moment, Telenet ne donne aucune indication sur les investissements nécessaires pour le lancement, mais le groupe est convaincu de sa logique de diversification. Le marché des véhicules électriques est porteur et si on en croit le patron de la nouvelle marque, le nombre de véhicules à recharger avoisinera les 800 000 d'ici 10 ans. 7 millions d'utilisateurs belges et de bien d'autres nationalités, l'application d'authentification It's.me passe un cap. 6 ans après sa création, l'entreprise affiche de beaux résultats financiers et puis des ambitions aussi. Bonjour Stéphanie De Bruyne.
Bonjour Laurent.
Vous êtes CEO d'It's.me. La société a dégagé 1,6 million d'euros de bénéfices pour l'exercice 2023. Comment déployez-vous vos activités aujourd'hui ?
En termes d'action, on a augmenté très fort. Donc, quand on regarde, par exemple, l'année dernière, en moyenne, un citoyen actif a utilisé It's.me 60 fois. Donc, ça veut dire quand même plus qu'une fois par semaine. À côté de ça, on a aussi accueilli pas mal de nouveaux partenaires dans l'écosystème. Donc, il y a plus que 100 sociétés qui ont intégré en plus It's.me dans leur processus. Aujourd'hui, l'application couvre 10 nationalités. À côté de la Belgique, on est disponible dans les Pays-Bas, au Luxembourg, la France et d'autres pays. On le fait pour servir la communauté des expatriés. Donc en Belgique, il y a pas mal d'expats qui ont besoin évidemment d'It's.me pour pouvoir s'authentifier sur les plateformes belges. À côté de ça, on veut servir aussi les sociétés qui sont actives sur l'international parce que pour eux, c'est important de pouvoir servir leurs clients aussi dans les autres pays, par exemple quand il s'agit de signer des documents à travers plusieurs territoires. Et puis troisièmement, vu qu'on a ouvert maintenant sur ces autres pays, il y a quand même des acteurs dans ces pays même qui démontrent un certain intérêt aussi. Et donc en fonction des opportunités, on va décider si on déploie des équipes commerciales, oui ou non.
Et puis It's.me se lance dans un autre projet également, celui des portefeuilles numériques pour échanger des documents. Ce serait le cas par exemple avec un permis de conduire quand vous avez besoin de le faire passer à une société de location de véhicules. Ce sera plus simple et plus rapide. Mitra poursuit sa longue descente aux enfers. Le spécialiste liégeois de la santé féminine est en forte difficulté financière, ça n'est pas nouveau, mais il doit à présent mettre une partie de son personnel en chômage économique. À partir de lundi prochain, un quart des salariés va être totalement écarté, un tiers ou plus le sera à temps partiel pendant environ 26 semaines. Les syndicats regrettent que la direction n'annonce pas de réduction de train de vie et dépose un préavis d'action. Ils estiment que les trois quarts des 130 travailleurs de Flémalle seront impactés et plus d'un quart des employés du siège de Liège. Chez Mitra, on assure vouloir garder un maximum de compétences au sein de l'entreprise. Un processus de monétisation a été annoncé il y a 2 semaines pour valoriser les actifs, ce qui implique la vente de certains d'entre eux. Fini les taux négatifs, la Bank of Japan, la Banque du Japon, vient de relever ses taux directeurs pour la première fois depuis 17 ans. Alors, assouplissement ou redressement, la décision de la Banque du Japon se faisait attendre depuis une semaine, le tout accompagné d'une baisse du yen, les marchés n'aimant pas l'incertitude. Mais l'annonce par le principal syndicat japonais d'une hausse record des salaires, de 4%, a probablement pesé dans ce changement de cap assez exceptionnel. Car si de notre côté du globe, on est plutôt habitué à des hausses de taux, ça n'est pas le cas du Japon du tout. Avec des taux négatifs depuis 2016, la quatrième économie mondiale était totalement à contre-courant des autres institutions bancaires et pratiquait une politique ultra-accommodante pour soutenir son économie. Mais l'inflation nippone a atteint récemment les 4%, un chiffre important pour un pays plutôt habitué à de la déflation. La Banque du Japon a donc relevé ses taux qui repassent légèrement au-dessus de zéro. À Tokyo ce matin, la décision n'est pas trop bien accueillie. Le Nikkei restait légèrement en baisse à la mi-journée. En attendant la réunion de la politique monétaire de la Fed, cette fois jeudi, Wall Street termine en hausse. Les technos sont toujours à la fête, notamment Alphabet, dont le moteur d'intelligence artificielle pourrait intégrer les iPhones. Et Nvidia a présenté cette nuit une nouvelle puce encore plus puissante. Et pour finir, si les Oscars vous ont laissé un goût de trop peu, n'oubliez pas mardi prochain la 10e édition des Family Business Awards. Comme chaque fois, nous récompenserons une entreprise familiale qui a su mettre en évidence des pratiques remarquables en matière de gouvernance, de vision et de maintien des valeurs familiales. 3 nominés sont en lice, le transporteur Ziegler, l'emballeur VPK et le spécialiste textile Sihoon. Des portraits à découvrir sur nos différentes plateformes cette semaine. Merci à Guillaume Cordeau et Florent Chose qui ont préparé cette édition. On se retrouve demain. Bonne journée.